Mesdames et messieurs, mes robots, mes non-binaires, bonjour, tous nos vœux de 2024, tous nos meilleurs vœux pour 2024, que 2023 soit obsolète avec son lot de vieilles emmerdes, de tickets de bugs et de contentieux enterrés avec une pelle au fin fond de la forêt de Boucone, et que 2024 vous apporte son lot de surprises agréables et instructives. Comme par exemple, comment organiser le télétravail durant les Jeux Olympiques, qui vont avoir lieu dans 6 mois d'ailleurs, est-ce que le chantier des JO sera terminé avant la cérémonie de clôture? Les paris sont ouverts. Et on commence par un hommage, oui, un hommage à tous les disparus de l'année dernière, ces milliards disparus en fumée, en NFT, en crypto-monnaie, en investissement en place de marché Ethereum. Hommage aux fintech qui internationalement ont levé en 2023 80% de financement au moins par rapport à 2022, ce qui s'appelle un ricochet. Hommage aussi aux startups françaises dont les financements ont chuté en 2023 de 38% par rapport à 2022. Hommage donc à tous les investisseurs dans des startups au business plan écrits aux générateurs de textes pompeux à base de buzzwords. Gratos, je vous file mon pari pour les prochains. Generative Code per Machine Learning for Green Tech. Je suis sûr que là aussi... Bon. Allez, vite, les news, et cette fois-ci, on n'en fait qu'une émission, hein. Pas deux. Allez.
And now, the news.
Vous écoutez Radio FMR, les news vous sont présentées par Noko Gabriel, Das Rich et Intestine Grunt.
Las Vegas, la ville où ont lieu les deux plus grosses conventions de hacking, la Black Earth. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de baisser le son. Ah, ça va, ça arrive. Las Vegas, Nevada, est la ville où ont lieu les deux des plus grosses conventions de hacking, la Black Hat et la DEF CON, mais surtout, est la ville des casinos. Et deux des plus grands sont le Kaiser et le MGM, qui ont été victimes d'une belle attaque informatique cette année. Des hackers les ont piratés avec un appel téléphonique, une bête attaque de social engineering. Ils ont appelé le service support et obtenu un mot de passe administrateur. Donc après avoir pris le contrôle de tout le réseau informatique corporate, le groupe hacker a envoyé une demande de rançon et a commencé par bloquer les ascenseurs, les portes de chambre, à faire bugger les machines à sous. Aucun des deux casinos n'a cédé aux mafieux. Genre, pas besoin d'en faire une salade, Kaiser. La preuve qu'ils se ramollissent à Las Vegas depuis que Joe Pesci n'y casse plus les genoux pour la mafia. Dommage, les pirates ont commencé à exploiter les 6 teraoctets de données, dont les fichiers clients, dont certains ont reçu des emails leur indiquant que leurs informations personnelles sont en vente sur le Darknet. Et du coup, ça a fait les titres dans les journaux et les JT, et ça a mis une très mauvaise réputation pour les groupes hôteliers qui gèrent ces adresses. Finalement, le Kaiser Palace a raqué 15 millions de dollars selon le gendarme boursier américain.
Aux États-Unis, Netflix met fin à son service de location de DVD. Il permettait de pouvoir louer un film, une série, depuis un catalogue différent que celui de Netflix Streaming, et de le recevoir par la poste. Et d'après les dires des clients, ce service avait un plus large catalogue que le service de streaming en lui-même. Les clients qui auront encore des DVD Netflix pourront les garder après la fermeture. Ce service comptait tout de même encore 1 million de clients.
Et pas mal en Alaska, où la connectivité est hyper chère. Et pour rappel, avant d'avoir lancé le streaming, Netflix avait étudié la possibilité d'envoyer des DVD qui s'autodétruisent, donc pas besoin de les renvoyer par la poste. L'idée avait fait hurler à l'époque sur l'impact écologique. Non,
je ne m'étonne.
Allez, le Wall Earth Catalogue est désormais en ligne, comme toutes les publications associées, et c'est à lire sur wallearth.info. On parlera bientôt de cette publication mythique du début des années 70 qui a marqué les hackers, et qui a connu une adaptation française qui, elle aussi, mérite un coup d'œil. On vous donne le lien sur la page web de l'émission cpu.pm/217.
Ce n'est pas la première fois dans CPU, cette émission diffusée sur cette radio de gauchisto poche trop notoire. Que l'on vous invite à lire le Financial Times, car un fabuleux article interactif vous explique clairement ce qu'est les IA à large modèle linguistique, comme ChatGPT. En fait, on aurait vraiment du mal à mieux expliquer. Seul souci, l'article est en anglais.
Le CERN a une page OnlyFans. Oui, oui, le Centre Européen de Recherche sur les Particules, là où le web fut créé, ils ont eu une page OnlyFans, onlyfans.web.cern.ch. Malheureusement, il semblerait que la page ait été remerciée et n'est plus disponible, mais les captures du site sont disponibles sur archive.org.
Attention, le site est à destination d'un public averti. À la recherche du gluon du trou, sûrement.
Pour l'achat de X ex Twitter, Elon Musk a dû emprunter à plusieurs banques, dont la BNP et Société Générale, la somme totale de 13 milliards de dollars.
Réaction du bureau de Patrick Drahi. 13 milliards ! Petit joueur. Selon l'AGFI, SFR accuse une dette de quelque 23,8 milliards d'euros au 30 juin 2023, sur un total de près de 60 milliards d'euros de dette sur ces trois entités, Altice International, Altice France et Altice USA. Il y en a qui font un concours de kiki avec leur fusée, d'autres font un concours de qui aura le plus gros trou claque sécu.
Elle est à double sens, celle-là. Pas mal. Pendant ce temps, Financial Times raconte comment, en 2021, Emmanuel Macron a incité indirectement Pôle emploi à un partenariat avec Binance, le géant chinois marketplace de crypto-monnaies. Oui, une formation au Bitcoin, Ethereum et compagnie, faisant miroiter des salaires de 100 000 euros annuels. Évidemment du flan, et Binance a bizarrement ciblé des demandeurs d'emploi dans des quartiers défavorisés, surtout des personnes qui ont arrêté très tôt leurs études pour ces formations où ils ont appris à faire de la rota pour ces investissements. Et je le rappelle, il est illégal de faire du conseil de placement financier comme ça. La profession est fortement réglementée par l'autorité des marchés financiers pour des raisons évidentes. Les chômeurs qui ont suivi ces formations ont pu ouvrir un compte chez Binance et recevoir un diplôme au format NFT. On est triste pour eux, car ils se sont bien fait avoir.
Le mois prochain, nous apprendrons sans surprise que France Travail, en partenariat avec la Française des Jeux, proposera une formation de parieur au tiercé.
De tout temps sur PC, il y a un moment où l'installation d'un Linux chez un particulier devient périlleux, le double boot avec un Windows. Surtout que pendant des années, Microsoft prenait un malin plaisir de saboter le secteur de boot lors de la mise à jour de son OS maison, virant Lilo, Grub et tout autre acronyme d'amorçage en quatre lettres. L'époque Steve Ballmer est définitivement révolue, Microsoft a publié un guide officiel sur comment télécharger et installer Linux. Non, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un exercice, il n'y a même pas eu de communiqué, la page en question est apparue le 29 septembre 2023 sur leur site de e-learning officiel, et ce guide détaille chaque option possible, de démarrer en utilisant Windows Subsystem for Linux, WSL, donc en émulation du kernel, ou en utilisant une machine virtuelle, ou encore jusqu'à l'installation en partition séparée en double boot. C'est absolument énorme et du coup, Microsoft va mécaniquement assurer le support.
En matière de support, il est bien pratique de pouvoir fournir les mises à jour à temps et pour tout le monde. En 2003, Microsoft révolutionne le genre, il institue une date unique pour fournir l'ensemble des mises à jour de ses logiciels tels que Windows, Office, Azure et même Internet Explorer. Chaque deuxième mardi du mois à 10h, heure de Seattle, soit 19h, heure de Paris. Et vous savez quoi? Ce rendez-vous mensuel, ben on le fait depuis 2 décennies. Putain, 20 ans. Bon, maintenant, faut penser à faire une chose indispensable pour toute mise à jour. Bouton Windows D, puis Alt F4, et redémarrer, brandu. C'est peut-être leur manière pour eux de fêter les 20 ans du patch SD, hein.
Breaking news, car c'est tombé sur l'informé pendant qu'on enregistre, et c'est même pas une blague.
Ouais.
Le ministre reconduit des armées Sébastien Lecornu désavoue Thales et Soprasteria dans l'appel d'offres sur les logiciels d'intelligence artificielle de nos armées.
Youhou !
Après plusieurs dysfonctionnements dans de grands programmes confiés aux gens du numérique de défense, le ministre des armées fait le choix d'une réinternalisation partielle. J'entends un ché dans mon oreillette. On fait la deuxième partie des news ?
Oui, oui, allez, vas-y, c'est à toi.
And now, the news.
Vous écoutez Radio Éphémère, les news de CPU vous sont présentées par Noko Gabriel, Daskrich et Infested Grunt.
Dommage pour tous ceux qui ont voulu connaître leur générique. J'ai encore oublié ? J'avais encore oublié de baisser le son.
Ah, je me disais, je devenais sourd un peu.
Dommage pour tous ceux qui ont voulu connaître leur généalogie par les services ADN d'une société américaine. Leurs génotypes et autres données personnelles sont à vendre suite à un piratage non annoncé dans les temps. On le rappelle, votre génotype est une donnée à caractère personnel. Le fait d'envoyer une entreprise hors Europe, comme aux États-Unis ou en Chine, fait que ces données peuvent être revendues ou saisies à tout moment. Et d'une manière générale, aucune de ces entreprises qui proposent cette prestation n'ont les obligations juridiques de confidentialité que celles le faisant pour des raisons médicales. Et donc, vous n'avez aucune garantie sur la sécurisation de vos données très personnelles. Votre génotype ne concerne pas que vous, puisque maintenant, certains services de police aux États-Unis s'en servent pour déterminer si des traces d'ADN de crime sont en rapport avec une fratrie
ou un relatif familial. Donc, si tonton a trouvé marrant de savoir à combien de pourcents il est d'origine berrichonne selon son ADN, ben vous pouvez déjà réduire sa possible reproduction par un bon coup entre les parties.
Qu'est-ce que l'on gagne à supprimer 224 000 emails pour sauver la planète ? C'est ce qu'a fait l'Agence numérique pour la santé. Et selon leurs chiffres, avec les projections fumeuses de l'ADEME sur le propre simulateur de calcul de la dite agence, on arrive à la production en CO2 d'une demi-clope. Des clopinettes, quoi. Parfait, très beau geste pour la planète. Et sinon, ont-ils profité pour mesurer les gains effectifs et le temps des salariés pris à ce travail rapporté à l'impact carbone du présentiel ? De ce que les serveurs et terminaux ont consommé pour procéder à la suppression ? Sans compter les réunions et la consommation de boissons chaudes pour préparer un tel challenge ? D'ailleurs, leur café est-il d'origine locale ?
Nos équipes sont sur le coup, justement, pour cette enquête approfondie.
Élise Lucé, vous êtes actuellement en direct. Bonjour Élise Lucé, Cache Investigation.
Vous avez trouvé un producteur de café éco-responsable en Provence, j'en suis sûr.
Allez, tout autre chose. Le changement de licence du moteur de jeu 3D Unity et de son modèle de facturation est une parfaite réussite. Même les groupes de développeurs dévolus à cette technologie décident de fermer ou de changer de nom pour explorer d'autres frameworks de rendu 3D. Ouais, une belle réussite.
Encore un changement de licence qui va être une belle réussite. Philips Hue tente d'imposer les comptes utilisateurs pour contrôler les lumières via leur implémentation du protocole Zigbee pour une technologie qui n'a pas besoin de connectivité Internet. Les mauvaises notes pleuvent, les ventes pourraient avoir un hoquet et les apps alternatives pourraient en profiter. Mais reste la question de à qui appartient le matériel que vous avez acheté sans contrat vous liant autrement avec le fabricant. On rappelle qu'installer une app sur un smartphone ne devrait pas être une obligation, que récolter les données personnelles pour un fonctionnement anodin ne devrait pas du tout avoir lieu et que les hubs Philips Hue ont une API super bien faite, fort instructive et qu'on pilote super bien sous Linux. Aussi bien donc sous Windows que sur Mac. Oui, je rallume, pardon, excusez-moi. Et perso, pour chez moi, je me vois mal rééquiper complètement en solution light de spectacle pilotée par standard DMX, tirée du câble XLR pour chaque lampe du salon. Ça va être un peu lourd.
Parlant de matériel, les pirates sont malins et essayent de vous avoir par tous les moyens. L'équipe du site américain 404 Media a testé toute une série de câbles étranges pour iPhone, iPad vendus sur Amazon pour moins de 10$, en particulier des adaptateurs HDMI. Ben justement, sur l'écran de la TV, ça invite à aller se connecter sur un site web pour télécharger une application de partage de vidéos, mal notée et très loquace. Non seulement le site affiche de grosses publicités et demande un abonnement en ligne, devinez le prix de l'abonnement.
Moi, monsieur.
Ouais, vas-y, Gab.
3 milliards.
Non, moi, je veux dire 10 dollars.
Eh ben non, 49,99 $.
Ouh, mais ils nous ont pris pour des Américains, là, ou quoi?
Et il faut juste noter que certains câbles ne réagissent même pas à la présence de l'application.
Belle réussite. Noco Gabriel.
Le Raspberry Pi 5 est là.
Oh. Youhou.
Et il est aussi en rupture de stock.
Oh.
Il dispose de quelques mises à niveau hardware avec un processeur BCM2712 quad-core Cortex A76 cadencé à 2,4 GHz, deux sorties vidéo mini HDMI en full 4K 60 Hz avec support HDR, 4 Go et 8 Go de RAM disponibles actuellement. Sur le stockage, au choix micro SD ou SSD NVMe, les traditionnels GPIO et les ports USB qui restent à 4, dont 2 USB 3 et 2 USB 2. En ce qui concerne l'alimentation, dû à une consommation hausse, on passe à du 5V 5A, et pour le moment, seuls les blocs d'alimentation officiels sont supportés pour le moment. Et un ventilateur sera des plus nécessaires. La Pi Foundation, pour la première fois, a recours à un third bridge, maison nommée RIRP1, permettant l'intégration de PCIe Express pour une connexion à un TPU, un SSD PCIe ou une carte réseau tierce, nous fait savoir le Cointex sur Twitter X. Les prix de ce nouveau Raspberry Pi 5 varient en fonction de combien vous voulez de RAM. Pour le moment, les modèles 4Go et 8Go de RAM sont disponibles, respectivement 70€ pour l'un et 93,60€ pour l'autre.
9 lettres.
Pas mieux.
Le compte est bon.
Une chamane professionnelle va diriger le projet GNOME, le bureau graphique le plus utilisé sous Linux. Pour une fois, ce n'est pas un développeur trop averti ou un gourou autoproclamé. Oh, attendez là.
Non, mais ta blague, tu faisais référence aux deux créateurs d'Apple, je suppose, hein ?
Bah oui, puisque je partais de la news du site proapplemacg.co et... Bon, écoute, laisse tomber. Noco Gabriel, s'il te plaît.
Message de service, pensez à utiliser des mots de passe solides, parce que c'est exactement ce que n'a pas fait Orange Espagne pour un élément de son cœur de réseau, à savoir sa base de données RIP qui donne les correspondances d'adresses IP. Pour le plaisir, je vous donne le mot de passe en question de la base RIP qu'ils ont utilisée. RIP admin. Résultat.
Non mais là c'est trop facile quoi, ça va vous dégoûter du hacking.
Allez, direction Paris, la maison Poincaré, premier musée français permanent autour des mathématiques, vient d'y ouvrir. Honte à toi Daskritch, qui était pas loin le week-end d'ouverture et l'a snobé pour assister aux conférences Paris Web et à la Fashion Week.
J'étais vraiment pas loin. Mode toujours, Google Japan lance un chapeau clavier. Ils ne le produiront pas, mais tous les schémas et codes sources sont disponibles. L'engin est difficile à utiliser et ce n'est pas le premier gag à touche de l'équipe de Google Japan qui avait produit un clavier ultra long, là aussi totalement open source. Alors, comment marche ce chapeau? On tourne la tête pour choisir un kana sur les 46 existants ou le bon kanji. Je rappelle qu'il y en a plus de 2000 kanji, c'est un petit peu plus que l'alphabet latin. Et on clique en appuyant le chapeau. J'attends la démo au prochain Toulouse Game Show.
Tant que c'est pas un cosplay du Chapelier Fou...
Le jeu Tetris sur NES est enfin terminé par un humain avec le jeu et le matériel Nintendo de base. 34 ans après la sortie du jeu, on vous renvoie à une vidéo qui raconte comment les techniques joueurs ont évolué, mais aussi comment certains bugs apparaissent, des fois dus au jeu d'instruction du CPU de la console, et comment les joueurs ont tenté de les patcher pour aller encore plus loin. 40 minutes de jeu, 1511 lignes et un kill screen impossible à patcher. Un univers du rétro gaming méconnu et passionnant. À noter que le gamer Blue Scooty a 14 ans et a dédié son exploit à son père récemment disparu.
Et la matinale de NBC, en visio, lui a fait rencontrer les deux créateurs de Tetris et il y avait une émotion absolument incroyable. C'est extrêmement émouvant. Mais vraiment l'ensemble... Et la vidéo que l'on pointe, qui explique l'ensemble de, l'ensemble de l'histoire et justement donc les patchs et le bug en question finale, est super intéressant puisque c'est la manière dont tenir la manette et tout ça, c'est absolument époustouflant. Le lien est sur cpu.pm/217 dans les news.
C'est un feuilleton qu'on avait abordé rapidement en parlant de Donkey Kong, la bataille au Ascore de la bande d'arcade originelle qui a été revendiquée par Billy Mitchell, puis annulée pour soupçon de tricherie en faveur de Stewie YB, puis réattribuée. Une histoire d'ego, de record du monde, de gros sous, de trucage, de corruption, de procès. Il y a eu un documentaire là-dessus, The King of Kong, qui a été projeté à Utopia et qu'on espère vous reproposer un jour. Le documentaire date de 2007, d'il y a donc 15 ans, et entre-temps, le dernier rebondissement est que Billy Mitchell a gagné devant le tribunal le droit d'être à nouveau dans le tableau des high scores officiels maintenu par Twin Galaxies. Mais attention, pas le tableau officiel. Le tableau maintenu pour des raisons historiques. Si un idiot remet une pièce dans la fonte, c'est reparti pour 5 ans.
Et le documentaire est sous-titré « For Fistful of Quarters ».
Pas compris.
Quarters, c'est les pièces de 25 cents. C'est en référence au western pour une poignée de dollars.
Ouais.
D'accord. Oui. Infested.
Ivre, virgule.
Stop ! Non. On est en plein dry January au moment où on enregistre, là.
Bah attends, j'y prends
bon, d'accord, ok. On reprend. C'est un exercice... Il y aura un alcotest à la sortie de l'enregistrement. Vas-y.
Ivre, virgule, un habitant de Pontarlier dans le Doubs décide d'arracher tous les fils du point de mutualisation fibre, excédé par les nombreuses coupures de connexion. Seulement, le type s'est fait prendre la main dans la boîte. Au moment de son geste, un technicien était en intervention et a filmé la scène. Transmis à la gendarmerie, la vidéo va lui coûter jusqu'à 50 séchoirs et 75 000 euros d'amende, hors dommages et intérêts. Et oui, les 300 lignes fibres ayant été coupées pendant 10 jours. Et il faut des dommages et intérêts pour résoudre tout ce bordel.
Mais ça a été réparé.
Oui.
Sudo nanocroquette.conf ou sudo shutdown-hnow. Un chat a réussi à couper pendant 4 heures les systèmes informatiques de l'hôpital de Kansas City. Le prévenu aurait sauté sur le clavier du technicien et a, par mégarde, supprimé le profil du serveur. Rien de grave cependant, seul le service des transferts d'images du centre de soins a été impacté par cette coupure. Le félin s'en est sorti avec un rappel à la loi, bien que nous savons que les chats aiment jouer au baby-foot, fumer des pétards et grimper au plafond.
D'ailleurs c'est l'heure.
Infested ! À table !
Orange a une drôle d'idée en tête pour les gamers, mais les testeurs du lab s'en vont debout. Dans le cadre d'un sondage le lab Orange, les équipes marketing du FAI ont eu une idée géniale pour les gamers.
un peu de publicité contre un boost de la connexion fibre. Ainsi, les gamers regarderaient une vidéo de publicité pour bénéficier d'un débit supérieur et d'un ping amélioré vers des serveurs supplémentaires des éditeurs installés dans le réseau de l'opérateur. Très mauvaise idée. À l'intérieur du lab, les testeurs sont révoltés contre cette solution payée par la publicité. Outre la neutralité du net, les testeurs ont rejeté l'idée de la publicité dans les jeux, ainsi que de l'amélioration des débits pour le jeu, au détriment des autres usages, streaming, mail et TV. Orange a une idée trop pressante qui va finir au compost.
Donc, si vous êtes un gamer, prenez un autre FAI qu'Orange ou Soch, parce qu'en plein frag, vous n'avez pas le temps pour un spot pub.
En fait, c'est pas le même opérateur où sur ses enregistrements TV, on ne peut plus zapper les pubs.
Hélas, oui.
Comme SFR d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça tombe bien, un mot de notre sponsor.
WestVPN, complètement à l'ouest.
WestVPN.
Twitter maintenant.
Non.
Non.